Dear brothers and sisters,
chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la Première Présidence et nous vous souhaitons un joyeux Noël. Nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous réunir avec vous pour commémorer la naissance, la vie et la mission de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le président Thomas S. Monson, qui préside cette soirée, m'a demandé de diriger cette réunion spirituelle. Nous sommes reconnaissants envers le président Thomas Monson, qui est ici et qui préside à cette veillée. Et nous saluons la présence également de la Première Présidence et d'autres autorités générales et officiers généraux de l'Église qui sont ici aussi ce soir. La musique de cette réunion spirituelle sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir et l'orchestre à Temple Square, dirigé par Mac Wilberg et Ryan Murphy, accompagné à l'orgue par Andrew Unsworth. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Venez tous fidèles ». Ensuite, Sir Joy D. Jones, présidente générale de la primaire, fera la prière de clôture, la prière d'ouverture, pardon.
Notre cher Père Céleste, nous te remercions
pour ce dimanche, le sabbat. Et comme nous sommes reconnaissants de pouvoir se réunir autour du monde pour bien célébrer la saison de Noël, pour fêter la naissance de notre Sauveur. Nous te remercions et nous réjouissons pour sa naissance et sa mission. Nous l'aimons et nous sommes reconnaissants pour son amour et pour sa lumière. Et nous prions que tu vas nous bénir, que nous puissions partager cette lumière avec les autres, que nous puissions être des bons modèles à tous. Nous te demandons, Père Céleste, ceux qui sont décourageux, ceux qui souffrent, ceux qui sont tout seuls. Et aide-nous que nous puissions voir comment nous pouvons les aider pour les bénir et pour les aimer. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète Prison Manson et nous l'aimons beaucoup. Nous sommes reconnaissants pour lui. Et nous demandons que tu nous envoies, que tu envoies les bénédictions les plus importantes sur la première présidence et sur les 12 apôtres. Nous prions pour ceux qui vont partager leur discours. Tu les bénis-les pour qu'ils puissent sentir ton esprit. Nous prions que nous puissions tous ressentir ton esprit, c'est-à-dire l'esprit du Saint-Esprit. Pendant cette merveilleuse soirée que nous allons passer ensemble, nous ressentons ton amour et nous exprimons notre amour pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Dallin H. Oaks du Collège des 12 apôtres. Après son discours, le chœur chantera « Et la gloire du Seigneur » tiré du Messie. Ensuite, Greg C. Christensen, de la présidence des 70, s'adressera à nous, puis le chœur chantera « Whence is that goodly fragrance flowing ?»
À Noël, nous, les croyants, célébrons la naissance de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Père éternel. À l'occasion de cette veillée de Noël de la première présidence, laquelle donne le ton de cette célébration, j'évoquerai les annonces prophétiques de sa naissance. Aucune annonce n'a jamais été aussi importante que celle de l'ange à Marie. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. La venue au monde et la vie et la mort du Fils de Dieu étaient essentielles au plan de notre Père céleste qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Avant que la terre ne soit créée, Jésus-Christ fut choisi pour faire l'expérience de la condition mortelle et être le sauveur indispensable à la réalisation du plan. Il fut commandé à Adam d'offrir des sacrifices, car ils étaient une similitude du sacrifice du Fils unique du Père, qui est plein de grâce et de vérité. Il lui fut enseigné, « C'est pourquoi tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils, tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. » Dans le livre de Moïse, nous lisons également l'explication par Dieu de son plan du salut pour tous les hommes par le sang de son Fils unique qui viendra au midi des temps. Il nous a commandé de nous repentir et d'être baptisés au nom de son Fils unique qui est plein de grâce et de vérité, lequel est Jésus-Christ, le seul nom qui sera donné sous le ciel, par lequel le salut sera donné aux enfants des hommes. Isaïe, un grand prophète de l'Ancien Testament, a annoncé la venue au monde du Messie. Il a déclaré, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Isaïe a également déclaré, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. » La naissance du Christ a également été révélée aux prophètes du livre de Mormon. 600 ans avant la naissance du Sauveur, Léhi a enseigné que Dieu susciterait parmi les Juifs un Messie, ou en d'autres termes, un Sauveur du monde. Le prophète Abinadi a déclaré, « Moïse ne leur a-t-il pas prophétisé que le Messie viendrait et que Dieu rachèterait son peuple ?» Oui, et même tous les prophètes qui ont jamais prophétisé depuis le commencement du monde n'ont-ils pas parlé plus ou moins de ces choses? N'ont-ils pas dit que Dieu lui-même descendrait parmi les enfants des hommes et prendrait sur lui la forme de l'homme et irait avec une grande puissance sur la surface de la terre? Le prophète Néphi raconte comment un ange lui a montré une vierge dans la ville de Nazareth et lui a expliqué « Voici, la Vierge que tu vois est, selon la chair, la mère du Fils de Dieu. Et il arriva que je vis, c'est ce qu'écrit Néphi, qu'elle était ravie dans l'esprit. Et lorsqu'elle eut été ravie dans l'esprit un certain temps, l'ange me parla, disant, « Regarde !» Et je regardais et vis de nouveau la Vierge portant un enfant dans ses bras. Et l'ange me dit, « Vois l'agneau de Dieu, oui, le Fils du Père éternel. » Nous connaissons tous la première annonce qui suivit la naissance de Jésus. Il est tout à fait remarquable de constater que cette annonce a été faite aux personnes les plus humbles de cette époque. C'est ce qui nous a été rapporté. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Sa naissance fut rapidement suivie d'annonces faites à deux personnes très pieuses, qu'on appellerait aujourd'hui des servants des ordonnances du Temple. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au Temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » La deuxième annonce a été faite à une femme pieuse aussi au Temple. Anne, que l'Écriture appelle une prophétesse, était fort avancée en âge. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Les prophéties et annonces que je viens de citer évoquent la première venue du Sauveur. Et nous nous préparons aujourd'hui à la seconde venue du Seigneur, un moment depuis longtemps attendu par les croyants et redouté ou nié par les incroyants. Il nous est commandé de nous tenir en des lieux saints et de ne pas nous laisser ébranler jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne, car voici, il vient rapidement. Ces lieux saints comprennent bien évidemment le temple et ses alliances, fidèlement observées. Le foyer où les enfants sont chéris et instruits et nos nombreux postes de responsabilité qui nous sont confiés par l'autorité de la prêtrise, comprenant les missions, les temples et les autres appels fidèlement remplis au sein des branches, paroisses et pieux. Alors que nous nous préparons à sa seconde venue, et que nous nous tenons en des lieux saints, nous continuons de célébrer Noël, pas uniquement comme étant une période de meilleurs vœux ou de joyeuses fêtes, mais comme la commémoration de la naissance du Fils de Dieu, et une période pour nous souvenir de ses enseignements et de l'importance éternelle de son expiation. Je prie pour que nous soyons fidèles à célébrer Noël de la sorte. Je témoigne de la véracité de ces choses au nom de celui dont nous célébrons la naissance, le nom même de Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, Noël est une période propice aux sentiments de tendresse, de joie et d'amour. Et comme tout parent pourrait en témoigner, ces mêmes sentiments accompagnent généralement la naissance de chaque nouveau bébé. Bien sûr, la naissance du Christ était unique. Les détails précieux du voyage à Bethléem, de l'auberge pleine, de l'humble mangeoire, de la nouvelle étoile ou de la visite des anges font de sa naissance une histoire inoubliable. Et pourtant, l'histoire de la naissance du Sauveur n'explique qu'en partie pourquoi nous ressentons l'Esprit lors de la période de Noël. Noël n'est pas seulement une façon de célébrer la manière dont Jésus est venu au monde, mais aussi qui il est, à savoir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et la raison pour laquelle il est venu. Le président Monson a enseigné, « Grâce à sa venue au monde, nous pouvons éprouver de la joie, du bonheur et de la paix chaque jour de l'année. Grâce à sa venue, notre existence mortelle a un sens. » Fin de citation. Le sens de ces paroles nous apparaît plus clairement lorsque nous examinons la plénitude de l'histoire de Noël. Comme Gordon B. Hinckley l'a expliqué, il n'y aurait pas de Noël s'il n'y avait pas de Pâques. L'enfant Jésus de Bethléem ne serait qu'un bébé comme un autre sans le Christ rédempteur de Gethsémané et du Calvaire et sans la résurrection triomphante. La naissance de Jésus à Bethléem n'est pas le début de l'histoire, ni le calvaire sa fin. Les Écritures indiquent qu'au commencement, il était avec Dieu, dans le conseil des cieux prémortels. Nous aussi étions présents et le connaissions sous le nom de Jéhovah, le premier-né de notre Père éternel. Nous avons appris qu'il remplirait le rôle central de créateur et de rédempteur du monde. Nous avons crié de joie en acceptant le grand plan de bonheur de notre Père. Bien que certains se rebellèrent contre le plan de Dieu, nous faisons partie de ceux qui placèrent leur foi en Jésus-Christ. Nous avons volontairement accepté les dangers de la condition mortelle parce que nous avions la conviction que Jésus accomplirait la volonté du Père et qu'à travers lui, nous serions sauvés. Ici, sur Terre, un voile d'oubli couvre les souvenirs de notre vie prémortelle. Notre but, en venant ici-bas, était d'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Pour fortifier notre foi, Dieu a envoyé des prophètes qui ont vu et ont prophétisé la venue du Messie promis. L'un d'entre eux était Néphi. Il eut la vision d'un arbre extrêmement beau et blanc. Lorsqu'il demanda l'interprétation de sa vision, la ville de Nazareth et Marie, une vierge extrêmement belle, lui furent montrées. L'ange qui accompagnait Néphi lui posa alors cette question pénétrante. « Connais-tu la condescendance de Dieu ? » En d'autres termes, comprends-tu pourquoi Dieu lui-même viendra dans le monde et pourquoi il descendra plus bas que tout ? La réponse de Néphi fut quelque peu hésitante. Je sais qu'il aime ses enfants, néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. L'ange lui dit alors, « Voici la Vierge que tu vois, et selon la chair, la mère du Fils de Dieu. » Néphi vit Marie portant un enfant dans ses bras, et l'ange déclara, « Voilà l'agneau de Dieu, oui, le Fils du Père éternel. » Soudain, la signification de l'arbre et la raison pour laquelle nous célébrons la naissance du Christ apparurent clairement à Néphi. Il dit, « Oui, c'est l'amour de Dieu qui se répand dans le cœur des enfants des hommes. C'est pourquoi c'est la plus désirable de toutes les choses. » Et l'ange ajouta, « Oui, et la plus joyeuse pour l'âme. » Puis finalement, près de 600 ans avant la vision de Néphi, le jour tant attendu et prophétisé depuis si longtemps arriva. Jésus franchit le voile et entra dans le monde comme un bébé, sans défense, bien que différent de tous les autres bébés. Le premier-né de Dieu, un esprit, devint son fils unique dans la chair. Cet enfant, né dans de humbles circonstances, allait porter sur ses épaules le poids du salut de la famille éternelle de Dieu. En vérité, la réponse à nos appels se trouvait dans la petite ville de Bethléem cette nuit-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aussi miraculeuse qu'était la naissance du Sauveur, de plus grands miracles allaient suivre. Nous savons très peu de choses de l'enfance de Jésus. Nous lisons qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À l'âge de 12 ans, son désir était de s'occuper des affaires de son père. Ses affaires consistaient à montrer au monde le grand et merveilleux amour du Père envers ses enfants. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé par lui. Les affaires de son père consistaient à aller de lieu en lieu faisant le bien. C'était une œuvre de compassion, guérir les malades, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Les affaires de son père consistaient à ouvrir les yeux de notre foi pour accroître nos facultés spirituelles, guérir nos douleurs, notre orgueil, nos maladies et nos péchés. Il s'agissait de nous secourir selon nos infirmités. Et pour y parvenir, Jésus a volontairement subi des souffrances, des rejets, des afflictions et des tentations de toute espèce. Les affaires de son Père consistaient à nous aider à accomplir notre but sur terre, à nous accorder d'être aux cieux près de lui. En d'autres termes, les affaires de son Père consistaient à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Au final, la plénitude de l'histoire de Noël trouve son apogée dans les trois derniers jours de la vie du Sauveur. Au cours de cette période cruciale, le Sauveur est passé par le jardin de Gethsémané, par la croix du Calvaire et par le jardin du Sépulcre. Comme Jeffrey Holland l'a enseigné, la portée et les conséquences de cet acte s'étendraient au début des temps et à toute éternité. Avec le sort de chaque âme humaine en jeu, Jésus est entré pratiquement seul au jardin de Gethsémané. S'en suivirent les interrogatoires, la flagellation et finalement la mort atroce sur la croix. Avec la même humilité et soumission qui lui firent dire au commencement « Me voici, envoie-moi », il déclara « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». La terre frémit, ses amis furent affligés et l'obscurité recouvrit le pays. Le Sauveur se rendit alors dans le monde des esprits où une foule innombrable d'esprits des justes décédés attendait sa venue. De façon tout à fait similaire à ce qui s'était produit au commencement, les fils et les filles de Dieu crièrent de joie et se prosternèrent pour adorer leur libérateur. Le moment arriva bientôt pour le Sauveur de reprendre son corps physique et de vaincre définitivement la mort. Un matin de printemps, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit à sa tombe et la trouva vide. Elle fut la première à entendre sa voix et à contempler son visage bien-aimé. Jésus apparut ensuite à ses apôtres, les invitant à voir ses mains et ses pieds, à le toucher, confirmant que c'était bien lui, que leur Rédempteur était de nouveau en vie. C'est la bonne nouvelle d'une grande joie que nous célébrons à Noël. Non seulement que le Christ est né, mais qu'il a vécu parmi nous, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est ressuscité et qu'il a finalement achevé l'œuvre que son Père lui avait donnée à faire. Nous nous réjouissons de ce que la confusion et le chaos du monde puissent être éteints par la promesse qui nous a été faite depuis le commencement, cette promesse que l'expiation de Jésus-Christ a réalisée. C'est pour cette raison que l'histoire de Noël n'est pas complète sans l'histoire de Pâques. C'est le sacrifice expiatoire du Sauveur qui a rendu sainte la douce nuit de Bethléem. C'est son don de rédemption qui nous a amenés à crier de joie dans la vie prémortelle, ce don qui guérit nos maladies, qui rend la vue et sèche toutes nos larmes. La lumière que nous aimons tant à Noël émane de la lumière du monde, à savoir Jésus-Christ. L'histoire de Noël que nous chérissons nous parle du plan du bonheur de notre Père, rendu possible par le Christ. Le cadeau qui rend la période de Noël si sacrée est sa vie même, qu'il a donnée pour que nous ayons la vie éternelle. Puissions-nous recevoir ce don et partager son amour et son évangile avec le monde entier, tout spécialement durant cette magnifique période de Noël. C'est là ma prière, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Merci beaucoup. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Douglas D. Holmes, premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Après le discours de Frère Holmes, le chœur chantera Wexford Carol. Aaron B. Herring, premier conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette soirée.
Brothers and sisters, it is a great blessing.
Frères et sœurs, c'est une grande bénédiction d'être avec vous ce soir. Dans 3 semaines, ce sera Noël. Le matin de Noël, des millions d'enfants se lèveront particulièrement tôt et changeront les habitudes en sortant leurs parents du lit. Brûlant d'impatience, ils se rassembleront autour de tous ces cadeaux contemplés pendant des jours. Mon père aimait Noël. Offrir des cadeaux le rendait très heureux et ma mère et lui étaient très doués pour cela. Mes frères et sœurs, moi-même et beaucoup d'autres encore, étions les bénéficiaires de ce talent. Certains de leurs meilleurs cadeaux n'étaient pas matériels. C'était des expériences qui créaient des liens d'amour et de précieux souvenirs. Aujourd'hui encore, ces souvenirs m'apportent de la joie. Donner et recevoir des cadeaux constitue une partie centrale de Noël. Après tout, nous célébrons le don incomparable du Fils de Dieu, le Sauveur Jésus-Christ. Les cadeaux que nous nous faisons les uns les autres ne pourront bien évidemment jamais être comparés à ce don, mais je crois que la joie de donner et de recevoir des cadeaux peut tourner nos cœurs vers les dons de Dieu. Le don précieux du Fils de Dieu invite chacun d'entre nous à trouver la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. La paix peut sembler inaccessible dans un monde où les conflits et les divisions s'intensifient. Mais c'est précisément cette paix que notre Père aimant et son Fils nous offrent si seulement nous sommes disposés à la recevoir. Imaginez combien il serait étrange de nous retrouver autour du sapin, d'admirer les cadeaux joliment emballés, d'essayer d'en devenir le contenu, mais de poursuivre notre journée sans ne jamais ouvrir aucun de ces cadeaux. Malheureusement, c'est parfois ce que nous faisons avec les dons que Dieu nous accorde. Réfléchissez aux paroles suivantes du Sauveur. À quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné, ni ne se réjouit de celui qui fait le don. Ce soir, j'aimerais nous inviter à méditer sur la façon dont nous pouvons véritablement recevoir les dons que Dieu nous a accordés. Je voudrais tout particulièrement me concentrer sur le don infini du Saint-Esprit. Ce faisant, je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le sens de ce don et qui nous enseigne ce que nous pouvons faire pour le recevoir plus pleinement et nous donne le courage d'agir en fonction de ses sentiments. Pourquoi le Saint-Esprit est-il un don aussi enviable? Le Saint-Esprit est le 3e membre de la divinité. Il est un consolateur, un guide, un enseignant, un sanctificateur, et en cela, il peut changer le cœur des hommes. À travers lui, nous pouvons recevoir les pouvoirs et les vertus de Dieu dans notre vie. Souvenez-vous de certaines de ces vertus, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça me semble bien correspondre à l'idée que l'on se fait généralement de l'esprit de Noël. La promesse angélique d'une bonne nouvelle, d'une grande joie et de paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, qui a été donnée lors de cette première nuit de Noël, s'accomplit en partie lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Nous évoquons souvent le fait d'essayer de conserver l'esprit de Noël tout au long de l'année, et nous souhaitons tout naturellement que ces qualités divines fassent partie intégrante de nos âmes à jamais. Notre Père Céleste souhaite que nous, ses enfants, recevions ces dons. C'est la grande promesse de l'Évangile de Jésus-Christ, que nous aurons un grand changement de cœur, n'ayant plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien, étant rempli d'espérance et d'un amour parfait. C'est véritablement en recevant le Saint-Esprit que ces dons précieux nous deviennent accessibles. Ce n'est pas un hasard si le don du Saint-Esprit nous est conféré en ces mots « Recevez le Saint-Esprit ». J'aimerais suggérer trois clés qui nous aideront à véritablement recevoir ce don précieux. Pour ce faire, je me référerai à une scène poignante du livre de Mormon. Le Christ ressuscité venait de passer une merveilleuse journée à servir le peuple et avait promis qu'il reviendrait le jour suivant. La nouvelle se répandit et le peuple impatient se rassembla de tous les coins du pays, certains œuvrant toute la nuit afin d'être le lendemain là où Jésus leur apparaîtrait à nouveau. Alors qu'ils attendaient le retour du Sauveur, les disciples enseignèrent à les multitudes ce que Jésus leur avait enseigné la veille. Les Écritures racontent ensuite qu'ils s'agenouillèrent et prièrent pour ce qu'ils désiraient le plus, et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné. Réfléchissez un instant au sens de cette scène. Ils attendaient avec impatience le retour promis du Sauveur, mais ne prièrent pas pour cela. Ils avaient été enseignés par l'instructeur parfait, puis par ses disciples choisis, et ce qu'ils désiraient par-dessus tout, ce dont ils avaient le plus besoin, c'était de recevoir le don du Saint-Esprit. Ce désir spirituel intense et irrépressible est la clé pour recevoir ce don. Frère Eyring a enseigné, « La plupart d'entre nous avons assez de foi pour désirer la compagnie du Saint-Esprit par moment. Ce désir peut être faible et intermittent, mais il vient, notamment lorsque nous avons des ennuis. Mais pour que nous soyons guidés vers le haut et en sécurité à l'avenir, ce désir doit devenir intense et constant. Frères et sœurs, pour recevoir ce don, il nous faut le désirer de tout notre cœur. En revenant à la scène du livre de Mormon, nous découvrons une autre clé. Après avoir supplié en prière pour ce don du Saint-Esprit qu'il désirait tant, les disciples descendirent dans l'eau et furent baptisés. Et il arriva que lorsqu'ils furent tous baptisés, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils furent remplis du Saint-Esprit et de feu. L'ordonnance du baptême est un témoignage physique de notre engagement à nous souvenir, à obéir, et de notre disposition à prendre sur nous le nom du Christ et de notre désir de recevoir le Saint-Esprit. Chaque semaine, nous avons l'occasion de renouveler ce témoignage en prenant la Sainte Cène, pour que nous ayons toujours son Esprit avec nous. Les ordonnances du baptême et de la Sainte Cène nous permettent de ressentir le pouvoir de la divinité dans notre vie. Dans un sens, ces ordonnances symbolisent à la fois le but et le processus visant à devenir divin. Le but consiste à devenir de nouvelles créatures en Christ, ses fils et ses filles. Ce but est atteint semaine après semaine, à mesure que nous nous souvenons et que nous obéissons. Je vous invite à venir chaque semaine à la table de Sainte-Cène du Seigneur avec foi en sa promesse que si nous gardons nos alliances, nous serons remplis de l'Esprit progressivement jusqu'au jour parfait. Cette année, le jour de Noël tombe à dimanche. Quelle bénédiction de célébrer la naissance du Christ et son expiation parfaite en prenant part à la Sainte-Cène en ce jour. La dernière et la plus importante des clés que je mentionnerai est la foi en Jésus-Christ. Après que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples avec grand pouvoir, le Christ leur apparut et pria pour remercier son Père de leur avoir accordé ce don précieux. Il prononça ensuite ces paroles importantes. « Tu leur as donné le Saint-Esprit parce qu'ils croient en moi. La foi au Sauveur et en son expiation parfaite est la source de tout bon don. » Une foi plus grande conduit à un plus grand déversement de l'Esprit dans notre vie. Alors, comment pouvons-nous accroître notre foi en Christ? En nous faisant un festin de sa parole et en y obéissant. Frère Christopherson a enseigné que le but central de toutes les Écritures est de remplir notre âme de foi en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ. Cette vérité se trouve tout le long du livre de Mormon. Par exemple, le roi Benjamin enseigna à son peuple les paroles qu'il avait reçues de l'ange, qui l'aidèrent à obéir, à obtenir une foi extrême en Jésus-Christ. Et grâce à cette foi, l'Esprit produisit un grand changement dans leur cœur. Si nous désirons que le Saint-Esprit soit notre compagnon constant, nous nous ferons un festin de la parole du Christ, reçu à travers les Écritures, les paroles des prophètes vivants et les murmures de l'Esprit. La recherche quotidienne de lumière et de vérité accroîtra notre foi en Christ, notre désir de devenir comme lui et notre capacité à recevoir le troisième membre de la divinité comme compagnon constant. Frères et sœurs, Dieu nous offre gratuitement ses dons inestimables à nous, à Noël et tout au long de l'année. Je prie pour que nous n'oublions pas de les ouvrir et pour que nous les recevions en utilisant ces clés. Je témoigne que ce faisant, nous serons progressivement remplis d'amour, de joie, de paix, de pureté et de pouvoir. Nous deviendrons participants de la nature divine. Nous nous réjouirons du don et de celui qui l'a fait. Et lorsqu'il reviendra, nous serons préparés à recevoir notre roi. Au nom sacré de Jésus-Christ, amen.
Je suis reconnaissant de pouvoir participer à cette célébration de Noël avec vous. Notre but est d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons saisir le véritable esprit de Noël pour nous-mêmes et pour les personnes que nous aimons. L'une des caractéristiques de cet esprit est la paix. Non pas la paix politique, car le Sauveur naquit à une époque de peur et d'agitation si grande que sa famille dut fuir en Égypte. Non pas non plus la paix économique, car il naquit dans une étable et fut couché dans une humble étable. Et même pas la paix que l'on ressent lorsque tous les présents sont emballés, le sapin décoré et la table mise. Car cette paix n'est que momentanée. La paix de Noël est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est la paix qui, selon la promesse de l'apôtre Paul, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et Paul avait raison. La paix que nous recherchons ne s'obtient que par Jésus-Christ et grâce à lui. Certains d'entre vous vivent dans un cadre beau et paisible, mais sont tourmentés intérieurement. D'autres ressentent la paix et une parfaite sérénité en dépit d'une grande perte personnelle, d'une tragédie ou d'épreuves persistantes. À toutes les personnes qui sont venues dans la condition mortelle, le Sauveur a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Pourtant, il a fait cette merveilleuse promesse à ses disciples pendant son ministère dans la condition mortelle. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Il est réconfortant de savoir que cette promesse de paix personnelle est valable pour tous ses disciples par alliance aujourd'hui. C'est une promesse faite la nuit même de sa naissance. Quand les messagers célestes ont annoncé la naissance du Sauveur, ils ont déclaré « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre ». En cette période bénie de l'année, plus que jamais, nous recherchons la paix auprès du dispensateur de tous les dons. Ce soir, j'aimerais parler de quelques-unes des nombreuses manières d'intensifier la paix que nous éprouvons à cette époque et tout au long de l'année à venir, et tout au long de notre vie. D'abord, comme les anges qui ont chanté la nuit de sa naissance, nous pouvons ressentir la paix en louant notre Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons chanter ses louanges. À Noël, nous célébrons une naissance. Nous nous sommes tous émerveillés devant un enfant nouveau-né. Nous sommes impressionnés en contemplant le miracle des traits minuscules et la promesse de l'avenir. Nous éprouvons de la tendresse, nous éprouvons de la reconnaissance, nous ressentons la paix. Et un sentiment d'amour pénètre notre cœur et nous donne envie de donner et d'être gentil en nous remémorant celui dont nous célébrons la naissance. Car à Noël, nous célébrons une naissance à nul autre pareil. La naissance de Jésus avait été prédite depuis des siècles par les prophètes de Dieu. Cette naissance était l'accomplissement d'une promesse qu'un Père céleste aimant nous avait faite dans le monde des esprits. C'était la naissance du Messie promis. Les mots reviennent du fond de ma mémoire et s'insinuent dans mon cœur chaque Noël. J'entends dans mon esprit les voix triomphantes d'un grand cœur chanter. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je me souviens d'avoir entendu ces paroles pour la première fois alors que j'étais assis dans la galerie du tabernacle de Salt Lake. Un chœur interprétait la musique d'Handel. Je me souviens d'avoir ressenti quelque chose dans mon cœur. J'étais jeune alors, je suis plus vieux maintenant, et je connais l'origine de ce sentiment. C'était le Saint-Esprit dont la compagnie m'avait été offerte à l'âge de 8 ans. L'Esprit a confirmé à mon cœur que les paroles que j'avais entendues chanter ce soir-là étaient vraies. Le bébé né à Bethléem il y a longtemps fut et est le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. Les personnes agenouillées devant lui vinrent adorer le Sauveur. Il fut l'agneau de Dieu, envoyé rompre les liens de la mort par son sacrifice expiatoire. Il vint avec le pouvoir de porter nos chagrins et nos souffrances, afin de savoir comment nous secourir. Il naquit pour expier tous nos péchés, comme lui seul pouvait le faire. Descendu parmi les hommes pour que nous soyons sauvés de la mort et du péché, avec les anges chanter « Gloire au roi qui nous est né ». Le sentiment que j'ai éprouvé dans la galerie du tabernacle ce soir-là était un sentiment de foi et d'espérance. J'ai éprouvé la foi que parce qu'un enfant nous est né, je pouvais espérer dans mon cœur que la mort ne soit pas la fin. Je ressusciterai, et l'aiguillon de la mort serait ôté à tous les enfants de notre Père Céleste. Et pourtant, je ressentais plus de choses, tellement plus de choses. Je ressentais l'espérance que grâce à lui, je pouvais le suivre et le servir, et ainsi naître à une nouveauté de vie spirituelle. Du fait du don de sa naissance, mon cœur, votre cœur, et le cœur de tous les êtres humains peut être transformé afin de redevenir comme celui d'un petit enfant, pur et digne de revenir au Dieu qui nous a donné un Sauveur et nous a fourni le moyen de revenir chez lui dans son foyer céleste. J'ai éprouvé de la reconnaissance et de la paix, et nous le pouvons tous, grâce au don du Père et du Fils. Deuxièmement, comme les bergers qui ont vu l'enfant Christ et ont répandu la bonne nouvelle de sa naissance, nous pouvons enseigner la paix à nos êtres chers. Nous le faisons en dévoilant les Écritures à leur esprit et à leur cœur. Quand nos enfants étaient petits, nous avons réalisé une scène de la Nativité dont toutes les paroles étaient tirées des Écritures. Nous jouions la scène la veille de Noël. Beaucoup d'entre vous ont fait quelque chose de semblable. Les premiers essais de notre spectacle nécessitaient un nombre limité d'acteurs, chacun jouant un rôle tiré des Écritures. Je faisais Joseph, ma femme Marie, et une poupée représentait l'enfant Christ. Avec le temps, d'autres rôles ont été distribués. Nous avons ajouté un petit acteur qui jouait le rôle de bébé Jésus. Puis sont venus les bergers, revêtus de peignoirs de bain, pour adorer à la crèche. Et ensuite, nous avons pu ajouter des rois qui portaient des coffrets ornés de bijoux pour honorer le roi nouveau-né. Au bout de quelques années, nous avons ouvert la scène avec un enfant qui jouait Samuel, le Lamanite, debout pour témoigner avec une puissance de prophète de la naissance future du Messie promis. Avec le temps, nous avons ajouté une foule incrédule armée de boules de papier d'aluminium qu'elle jetait sur lui alors qu'il se tenait au-dessus d'elle. Chaque année, la foule en colère devenait plus forte et plus précise, et nous devions lui rappeler avec insistance que Samuel ne pouvait pas être atteint puisqu'il était le serviteur protégé de Dieu, et parce que nous cherchions à favoriser et célébrer la paix. Comme il nous fallait des rôles pour les plus jeunes enfants, nous avons ajouté des moutons et des agneaux qui suivaient les bergers jusqu'à la crèche à quatre pattes. Puis le temps a passé, comme il le fait. Les acteurs ont grandi et nous sommes de retour à la case départ. J'ai regardé ces Joseph, Marie, bergers, moutons, agneaux et rois passer à l'étape suivante, celle d'enseigner le Sauveur et la paix rendue possible par sa naissance à leurs êtres chers. Grâce au rôle qu'ils jouaient dans notre pièce, ils ont eu la bénédiction d'en apprendre un peu sur le Sauveur, sur la raison pour laquelle nous l'aimons. Je suis reconnaissant que nos enfants et leurs enfants nous aient vu honorer le bébé Jésus, né pour être le sacrifice infini, le don inestimable de paix de notre Père Céleste à tous ses enfants. Troisièmement, comme les rois mages en qualité de disciples du Seigneur ressuscité, nous pouvons faire des dons de paix et d'amour. Frère Céleste Rexburg, en Idaho, l'a fait pendant des années qui ont suivi son appel d'évêque. Sa paroisse se trouvait près de la grande route qui traversait cette petite ville. À cette époque de chômage, beaucoup de gens sans ressources se déplaçaient d'un endroit à l'autre dans l'espoir de trouver le moyen de subvenir à leurs besoins. Ils allaient souvent demander de l'aide à l'un des évêques un des derniers jours. Souvent, les évêques qu'ils rencontraient les envoyaient chez Frère Céleste. Il y avait une raison. La famille Céleste accueillait les étrangers dans le besoin. Le déjeuner n'était pas seulement un repas familial. Il y avait souvent à table un inconnu ou deux, voire plus. Après un délicieux repas préparé par Sœur Céleste, l'évêque leur donnait l'un des manteaux en réserve qu'ils avaient acheté des surplus de l'armée. Et donc, ces gens pouvaient affronter l'hiver, le cœur joyeux, un manteau chaud sur le dos et un autre repas de Sœur Céleste à la main. Ce qu'ils avaient vu, entendu, ressenti ce jour-là ne les quittait pas sur leur chemin. Comme à Rexburg, c'était pendant la période de Noël qu'il y avait les journées les plus froides. Et comme cette famille est habituée à faire preuve de charité tout au long de l'année, les enfants Céleste gardent en mémoire le fait d'avoir agi comme le Sauveur aurait agi et de l'avoir fait à sa place. Vous avez, votre famille et vous, fondé vos propres traditions de Noël, selon votre situation. Mais ces traditions ont certains points communs. Elles tournent notre cœur vers le Sauveur. Et elles comprennent des actes de gentillesse qui méritent l'approbation du Sauveur. Il a dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Il leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Les anges, les bergers et les rois mages ont recherché et trouvé la paix dans leur foi en Jésus-Christ. Vous le pouvez aussi. La naissance du Sauveur est le don qui permet au Père de nous accorder la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Nous avons poussé des cris de joie dans le monde des esprits lorsque nous avons entendu parler de cette promesse. Nous ressentons de nouveau la paix et la joie lorsque nous entendons des paroles chantées qui proclament que la promesse aimante de Dieu a été tenue. Tout se tait, leur fuit, l'air s'emplit de cantiques joyeux qui s'envolent aux portes des cieux. C'est Jésus, le Sauveur. Je prie que la paix puisse venir et demeurer avec chacun de nous lorsque nous nous souvenons de notre Père Céleste et lorsque nous l'aimons et l'adorons en respectant les alliances que nous avons contractées avec lui. Puissions-nous toujours nous souvenir de la gentillesse de Jésus-Christ et des services qu'il a rendus pendant son ministère dans la condition mortelle et prendre la résolution de faire de même. Je témoigne que Jésus est le Christ, le Fils bien-aimé du Père. Je témoigne que Thomas S. Monson est le prophète vivant de Dieu. Son souhait est celui de la première présidence et que nous ayons pendant cette période et pour toujours la joie, la paix et l'amour que le Sauveur promet à ses disciples fidèles et humbles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dear brothers, dear sisters, dear children,
chers frères et sœurs, chers amis, alors que nous terminons ce soir, nous exprimons notre reconnaissance au chœur mormon, à l'orchestre de Temple Square, pour la belle musique de Noël qui a empli notre cœur. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé à ce programme et nous saluons les efforts de toutes celles qui ont contribué de quelque manière que ce soit à rendre cette réunion spirituelle possible. Tandis que nous entrons dans cette belle période de Noël, nous prions pour que chacun de vous puisse connaître la paix et l'espoir qui se manifestent grâce à l'amour rédempteur de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime. Le président Monson vous aime. Nous vous aimons. Nous terminerons maintenant la réunion par le chœur qui va chanter « Douce nuit, sainte nuit ». L'assemblée se joindra à lui pour chanter le troisième verset. Ensuite, frère Joseph Brough, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, fera la prière de clôture. Et encore, donc, nous vous souhaitons un joyeux Noël, une belle saison de Noël, remplie de joie, alors que le Seigneur nous donne cette époque pour nous rappeler de lui et rappeler du sacrifice qu'il a fait pour nous. Et c'est la prière que nous laissons aujourd'hui.
Oh. Our kind and holy Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, bien-aimé, à la fin de cette soirée, nous te remercions pour l'esprit que nous avons ressenti et nous sommes reconnaissants de célébrer avec le reste de la chrétienté la naissance de ton Fils. Et nous sommes encore plus reconnaissants pour son expiation et sa résurrection. Père, nous sommes reconnaissants pour notre prophète, président Monson, ainsi que la première présidence et le Collège des Douze, et nous prions pour eux. Et également, en cette saison, nous prions pour les autres anges que nous appelons les missionnaires, où qu'ils soient dans le monde, avec leur président de mission et leur épouse de président de mission. Nous prions qu'ils soient bénis et que nous aussi soyons des messagers de la paix et trouvions des occasions d'inviter les autres à venir au Christ. Père, nous t'aimons et nous ressentons ton amour et nous prions afin d'être des bons représentants de cet amour à tous ceux qui nous entourent en cette période de Noël. Et c'est là notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.